RTS Info, Philippe Nanzer.
Le trafic ferroviaire entre Lausanne et Verdon est totalement rétabli depuis cet après-midi. Il avait été interrompu en raison de fortes précipitations dans cette région hier, des précipitations qui avaient provoqué la forte crue d'un ruisseau. Celui-ci avait même totalement inondé la voie ferrée. Le trafic régional avait déjà repris partiellement ce matin, mais sur une seule voie. Il n'y aura plus de salon de l'automobile à Genève. Les organisateurs de la manifestation ont annoncé aujourd'hui qu'ils abandonnaient l'organisation de cette exposition phare. La fondation du salon de l'auto explique cette décision par le constat qu'aujourd'hui, l'industrie automobile n'a plus besoin d'un tel événement. En tout cas, pas en Europe. Le centre de gravité de cette industrie s'étant déplacé en Asie, notamment avec la nouvelle technologie des voitures électriques. Le salon international de l'automobile de Genève existait depuis 1905. La Suisse va renforcer, en tout cas temporairement, les contrôles aux frontières à cause des Jeux Olympiques de Paris et de l'Euro de football masculin en Allemagne. Le Conseil fédéral entend ainsi agir contre la menace terroriste qui augmente en raison de ces événements. Le groupe État islamique a appelé à commettre des attentats contre ces manifestations sportives. La conférence sur la paix en Ukraine, le mois prochain au Burgenstock, est aussi un événement majeur qui pourrait être visé. Une nouvelle majorité politique se dessine en Afrique du Sud. À l'issue des élections législatives, l'ANC s'apprête à perdre la majorité absolue qu'elle détenait au Parlement depuis 30 ans. Selon les résultats encore partiels publiés en début d'après-midi, la formation politique historique à laquelle appartenait Nelson Mandela, notamment, n'obtient plus que 42% des voix. Il reste encore un tiers des bulletins de vote à dépouiller. Pour que l'Ukraine ait une chance de repousser définitivement la Russie de ses frontières, l'aide militaire fournie par les pays de l'OTAN doit au minimum atteindre les 40 milliards d'euros par an et aussi longtemps que nécessaire. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à Prague le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, à l'issue d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Hockey sur glace, le défenseur suédois Christian Juus quitte le Lausanne Hockey Club. Ce Suédois de 29 ans qui évoluait au LHC depuis l'année dernière a demandé à retourner dans son pays pour des raisons personnelles et familiales. Et pour le remplacer, le club vaudois a engagé le Tchèque David Skidenica. Ce joueur de 27 ans a récemment évolué en Suède avec Brynäs et au Kazakhstan avec Baris Astana. Il a disputé 4 championnats du monde avec son pays. Tennis, Coco Gauff s'est qualifiée aujourd'hui pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. L'américaine a écarté l'ukrainienne Diana Yastremska en 2-7, 6-2, 6-4. L'américaine affrontera Elisabetta Cocciaretto. L'italienne a atteint pour la première fois les huitièmes d'un grand chelem après avoir battu la russe Lyudmila Samsonova. La météo, eh bien, il y aura du gris et de la pluie au programme de cet après-midi. Il y aura quand même quelques éclaircies au niveau de l'ouest lémanique et du Jura, ainsi qu'en Haut-Valais. Moins de pluie ce soir, il ne fera plus que 15 degrés durant la nuit et demain la journée s'annonce en partie ensoleillée du Léman jusqu'en Valais, plus nuageuse dans les autres régions avec même un peu de pluie. Et puis dimanche, il y aura du gris et de la pluie.
Espace 2. C'est Catherine Buzère dans l'oreille d'abord.
Avec la complicité de Bastien Meucli à la régie, bonjour, bienvenue. Américain d'origine, mais roman d'adoption, le compositeur George Templeton Strong était une des figures marquantes de son temps. Comme bon nombre de musiciens avant lui, l'artiste new-yorkais a choisi de s'établir en Suisse, sur les rives du lac Léman, d'abord à la Tour de Paix, puis à Genève, où il s'est éteint en 1948 à l'âge de 92 ans. Qui connaît aujourd'hui encore la musique de George Templeton Strong ? Quelques rares mélomanes éclairés, alors que de son vivant, ce compositeur américain, qui était aussi un brillant aquarelliste, était une célébrité de la vie musicale et artistique de Suisse romande, l'ami d'Ernest Ansermet, qui a souvent défendu sa musique à la tête de l'orchestre de la Suisse romande. Pour nous parler du parcours étonnant de ce bel artiste, l'oreille d'abord a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Adalberto Maria Riva et Christophe Pontillon. Bonjour.
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 Adalberto Maria Riva, les auditeurs d'Espace 2 vous connaissent bien. Vous êtes pianiste et depuis de nombreuses années, vous mettez tout votre talent et votre énergie à faire connaître les compositeurs de notre pays. Découverte ce que vous êtes venu partager avec nos auditeurs, notamment à l'enseigne de musique en mémoire. Et si vous venez aujourd'hui dans l'oreille d'abord, c'est pour nous faire connaître un peu mieux George Templeton Strong, un compositeur auquel vous avez consacré plusieurs enregistrements. Et vous avez verni, il y a quelques jours, votre tout nouvel opus, paru sous le label Video Gallo. Adalberto Maria Riva, bienvenue dans l'oreille d'abord. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer l'œuvre de ce compositeur ?
C'est quelque chose de très personnel. Quand je faisais mes recherches sur la musique suisse, je suis tombé, donc ça remonte à 2013-14, je suis tombé sur les partitions de Templeton Strong et j'étais très frappé par ces petites pièces pour piano, ce que j'ai cherché à l'époque. Et j'ai trouvé que, comme dans ses aquarelles, avec très peu de moyens, il arrive toujours à créer une atmosphère avec des moyens simples, mais qui parlent au cœur. Et ça, à mon avis, c'est la signature du compositeur des talents. Parce que ce qu'il arrive à faire, c'est toujours original. Il a un peu ses leitmotifs, ses fils rouges. Souvent, il y a des thèmes liés à la nature qui sont en parallèle avec ses tableaux. Beaucoup de pièces sont des titres qui sont inspirés par ses ballades qu'il faisait à la Tour des Paix ou sur le lac Léman. Mais disons, ce qui m'a frappé, c'est cette musique qui est très poétique, très évocatrice. Et ça mérite d'être remise en valeur.
Alors, c'est ce que nous allons découvrir en votre compagnie aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu accompagné de Christophe Pontillon. Rebonjour.
Bonjour.
Vous êtes violoncelliste et vous êtes en quelque sorte un peu la mémoire qui va nous permettre de mieux cerner la personnalité de George Templeton Strong.
Oh ben, je ne sais pas si j'ai ce rôle-là, mais c'est vrai que je connais George Templeton Strong. En fait, moi, c'est le contraire. Je le connais de nom depuis tout petit, sans connaître sa musique, parce que mon grand-père était aussi déjà musicien. Il était professeur de violon, chef d'orchestre, de chœur, mais aussi compositeur. Et il avait pris des leçons de composition avec George Templeton Strong à Genève pendant la Première Guerre mondiale, entre 16 et 18. Et quand j'étais petit, chez mes grands-parents, il y avait, dans le bureau de mon grand-père, il y avait une paroi où il avait épinglé des photos de famille. Alors, il y avait nous, il y avait mes cousins, il y avait mes oncles et mes tantes. Et au milieu, il y avait une photo d'un vieux monsieur, une vieille photo noire et blanc avec une dédicace. Et je me souviens, je sais pas quel âge j'avais peut-être 8-9 ans, je lui ai demandé, grand-papa, qui c'est ce monsieur-là? C'est un oncle? Et puis il m'avait dit, non, ça c'est Strong. C'était mon prof de composition. Donc, le nom Templeton Strong, ça m'avait plu, quoi. Et comme ma mère était américaine, un américain qui habite en Suisse romande, ça me touchait, quoi. Donc, je connaissais ça, mais je connaissais pas sa musique. Mon grand-père en parlait de temps en temps. Peu, en fait. Mais très, très gentiment, avec beaucoup, beaucoup d'affection, en fait. Je crois qu'il a été très important pour lui. Et beaucoup plus tard, quand je faisais mes études dans les années 80, je dirais, je lui en avais reparlé, je lui avais demandé, c'était l'époque où j'ai commencé de m'intéresser à des œuvres inconnues, etc. Et je lui ai demandé comment était la musique de Strong, parce que je lui avais dit, j'en ai jamais entendu. Puis à l'époque, il m'avait dit, oh, tu sais, tu trouverais ça démodé. Ce qui était probablement vrai, dans les années 80, on était beaucoup plus étroit que maintenant. Et les post-romantiques, je veux pas dire qu'on les méprisait, mais on trouvait que bon, ils avaient raté le train, quoi, au XXe siècle. Et puis, j'ai découvert sa musique beaucoup plus tard, quand un des premiers CD est sorti dans les années 2000, je crois, avec la deuxième symphonie, Sine Tram, le poème symphonique. Et j'ai trouvé dans un magasin de disques, je l'ai tout de suite acheté. Et maintenant, il y a 3-4 ans, quand on s'est rencontrés, Adalberto et moi, Adalberto m'a tout de suite parlé de Strong, et puis moi j'ai tout de suite dit, ah ben, avec grand plaisir, parce que j'ai une sorte de dette vis-à-vis de George Templeton Strong, parce que j'en ai tellement parlé, j'ai jamais joué de sa musique, donc voilà, c'est pour ça qu'on a collaboré sur ce disque.
Magnifique, alors on va tout de suite faire connaissance avec la musique de George Templeton Strong, histoire de mieux appréhender ce dont on va parler tout à l'heure. Thank you. L'arrivée des sauterelles, c'est l'une des pièces extraites d'un cycle intitulé « In the Twilight » de George Templeton Strong, dans votre interprétation, Adalberto Maria Riva. Christophe Pontillon, à l'époque où votre grand-père travaillait avec George Templeton Strong, il était professeur au conservatoire de Genève, il s'est installé dans cette ville en 1911. Et quand il a choisi de venir vivre en Suisse, il s'est d'abord installé à la Tour de Paix. Adalberto Maria Riva, est-ce que vous avez réussi à définir les raisons qui ont conduit cet Américain d'origine à venir s'installer chez nous?
Franchement, non, je dois dire, mais d'abord, il y a eu un conflit familial parce que le père de Templeton Strong, qui s'appelait aussi George, George Senior, était dans le comité de la Philharmonique de New York et il était un avocat de renom à New York. Son journal intime, c'est une œuvre assez remarquable. C'est 3 volumes, mais 3 tomes assez bien remplis, qui sont une source d'informations incroyable pour tout ce qui est la vie musicale à New York au milieu du 19e siècle, donc avant que New York devienne la ville qu'on connaît aujourd'hui. Et donc George, père, a été pour un certain temps président du New York Philharmonic. Et son fils était destiné à suivre la carrière de son père, pas au niveau musical, mais au niveau d'avocat. Donc il a fait des études de droit, mais lui il aimait la musique et il voulait faire de la musique. Donc il a été envoyé en Allemagne pour apprendre la musique comme on faisait à l'époque, parce que l'enseignement musical au 19e siècle en Amérique, c'était pas comme aujourd'hui. Donc on envoyait le compositeur pour les familles qui avaient de moyens en Europe. Et ensuite, George Junior, le compositeur, revient en Amérique et là, il dit « Non, mais moi, je vais être musicien ». Et donc, je pense que dans la famille, ils n'ont pas trop apprécié ce choix. Donc, il est venu en Suisse, il s'est installé et je pense que le lac Léman, avec sa beauté, les paysages, ça allait bien avec la nature intime de Strong. Il a partagé sa vocation presque toute sa vie entre la musique et la peinture. Et il y a des lettres où il hésite entre entreprendre la carrière de musicien ou celle de peintre parce qu'il aimait les deux. Et en fait, ces tableaux, même si aujourd'hui, disons, à l'œil de l'expert historien de l'art, paraissent un peu parfois naïfs et amateurs, mais ils ont quelque chose à dire. Le goût de la couleur, le cadrage, l'image, c'est la même chose qu'on trouve dans sa musique. Et donc, il s'est installé d'abord à la Tour de Paix, où il s'est promené avec son chevalet et il peignait en plein air. Et ensuite, il est parti à Genève. Mais je pense que ce lien entre la nature et la musique, on le trouve souvent dans ses œuvres, pas seulement pour piano, mais pour orchestre, comme on vient d'entendre. C'est de la musique qui sonne post-romantique. Et Strong a toujours continué à écrire dans ce style, même en plein XXe siècle. Il se sentait parfois un peu décalé lui-même, avec beaucoup d'humour, par rapport à ce qui était les avant-gardes ou la musique de compositeurs de son époque. Mais lui, il n'arrivait pas à entrer dans ces nouveaux styles. Donc il y a cette nostalgie du temps passé, la nostalgie peut-être de son pays natal. Il y a beaucoup de sentimentalisme, dans le bon sens du terme, dans la musique de Strong, à mon avis.
Christophe Pontillon.
Moi, je ne sais pas non plus pourquoi Strong est venu s'installer en Suisse, mais ce qui m'est revenu à l'esprit, c'est qu'en lisant d'autres biographies de compositeurs, c'est qu'en fait, on n'en parle pas tellement, mais pendant la Première Guerre mondiale, la Suisse a quand même été un refuge pour beaucoup de gens. Alors lui, je pense pas qu'il était en danger comme Américain, il aurait pu rentrer en Amérique, mais il y avait pas mal d'activités artistiques en Suisse pendant la Première Guerre.
En tout cas, dès qu'il s'est installé ici, il était assez réputé, et surtout à Genève. C'était une personnalité très respectée du milieu musical genevois.
Il s'est d'ailleurs lié d'amitié avec Ernest Ansermet, qui a beaucoup fait pour jouer sa musique et qui a été un défendeur infatigable.
Donc, et il y a aussi la famille de Des descendants de Templeton Strong m'ont montré une fois une lettre de Jacques Dalcroze à Templeton Strong où il parle « Mon cher ami ». Il y avait une amitié très profonde et très sincère entre ces deux musiciens.
Ce que vous avez dit au début est très juste. Je pense qu'il était très réputé en Suisse romande. En tout cas, j'ai constaté depuis que ce projet est dans l'air, j'en parle à ma famille et mes tantes, mon oncle et tout. Ils connaissaient tous Templeton Strong. J'ai une vieille tante que j'ai vue il y a un mois qui a 96 ans maintenant, qui est en pleine forme, et qui m'a dit « Ah, Strong, ouais, j'avais joué de ses œuvres quand j'étais petite, quand je faisais du piano dans les années 30. » Donc c'était quelqu'un qu'on connaissait quoi à l'époque. Ce qui s'est malheureusement perdu, mais ça va recommencer maintenant.
Thank you.
Au coucher du soleil, c'est le premier d'une suite de 4 poèmes symphoniques intitulés La nuit de George Templeton Strong. Adriano dirigeait l'orchestre symphonique de la radio de Moscou. Je rebondis sur le fait que vous parliez de la descendance de Templeton Strong et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a aujourd'hui des descendants? Est-ce que la maison où il a habité est toujours debout? Comment êtes-vous entré en contact avec ces gens-là?
Alors, par hasard, comme beaucoup de choses dans la vie, parce que lors de mon deuxième disque sur la musique suisse qui était le premier produit par l'association Harmonie Helvetica, il y avait de la musique des Strong. On est en 2015. Et lors du vernissage, on dit mais est-ce qu'il y a des descendants de ce compositeur? Et donc, on les invite. Les deux petites filles du compositeur ont répondu présent, elles sont venues au concert. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer un lien qui est resté dans le temps. Et là, c'est aussi grâce à eux si j'ai eu parfois accès à certains documents, voire des aquarelles. Par exemple, tous les aquarelles qui sont sur le disque viennent de la collection privée. Parce qu'aux archives à Lausanne, il y a une petite partie de ces aquarelles, il y a tous les manuscrits, la musique, bien sûr. Mais une bonne partie est restée dans la famille, et donc là, tout ce qu'on a mis pour illustrer, ça vient de la famille. Après, cette lettre que je vous ai citée de Jack Dalcroze à Templeton Strong, d'autres aquarelles qu'on a mis dans un autre livre qu'on avait publié avec des pièces pour piano dont le titre, encore une fois, s'inspire à la nature, paysage, poème et twilight. Donc tout ça, ça fait que, en partant d'une découverte que j'ai fait vraiment par hasard dans les archives de la bibliothèque de Lausanne, en regardant ces partitions manuscrites qui sont muettes, vous devez imaginer un peu comment est-ce que cette musique sonne. Et ça m'avait frappé déjà comment ça sonne la musique. Et après, voilà, en partant d'un document écrit, on a enchaîné avec des contacts personnels qui sont encore en route. Et je profite aussi pour remercier la famille qui nous a aussi aidés pour la réalisation de ce disque au niveau pratique, mais sinon aussi pour tous les contacts et les documents qu'ils nous ont mis à disposition.
Pour notre plus grand bonheur, puisque là nous avons un disque qui paraît tout juste, avec plein d'inédits, et je vous propose qu'on écoute 2 des 5 pièces dans le style du passé pour violoncelle et piano.
Thank you.
Mélodie et danse, ce sont deux des cinq pièces dans le style du passé pour violoncelle et piano de George Templeton Strong. Adalberto Maria Riva au piano accompagne ici Christophe Pontillon. J'aimerais qu'on revienne sur les années de formation de George Templeton Strong. Donc, vous nous avez dit qu'il est issu d'un milieu musical, milieu familial en tout cas propice à la musique, avec son père qui est directeur de la Philharmonie et de New York. Et puis que dans ses jeunes années, il a eu le plaisir de venir travailler en Allemagne. Alors, pourquoi est-il venu en Allemagne et pourquoi avoir choisi Leipzig en particulier?
Alors, au 19e siècle, même en Suisse, c'était, comment dire, l'habitude d'envoyer les compositeurs ou les jeunes étudiants en musique, pas seulement en composition, à Paris ou en Allemagne, parce que c'était là les deux pays dont l'héritage était considéré le plus pertinent à la formation d'un jeune étudiant. Pourquoi il était envoyé en Allemagne? Je ne sais pas, mais une des raisons probablement était le fait que Leipzig, bon, l'héritage de Mendelssohn, même s'il n'était plus là à cette époque, mais il a pu rencontrer Liszt en Allemagne, auquel il a montré le manuscrit de son poème symphonique « Sin Tram Sofferer », mais je voulais...
Undine.
Oui, voilà, Undine. Pardon. Et Liszt a dit « Bon, c'est pas mal ». Donc, il a eu une opinion favorable du vieux Liszt.
Je m'excuse de t'interrompre, mais j'ai juste une des rares anecdotes familiales que je sais justement à ce point de vue-là. Mon grand-père m'avait raconté quand Templeton Strong était allé jouer son poème symphonique à Liszt, il l'avait joué au piano, mais il n'était pas pianiste, évidemment, mais il l'avait joué au piano, et Liszt lui aurait dit « Vous êtes un très mauvais pianiste, mais vous êtes un bon compositeur.
» Et donc, il a pu étudier la composition avec Reinecke à Leipzig. Il y avait la classe de composition. Donc, le milieu musical était favorable pour qu'un jeune étudiant puisse avoir le contact avec les personnalités marquantes en Europe de l'époque. Il faut pas oublier comme le journal intime de George Père en témoigne à New York. La vie musicale à New York, c'était pas facile comme aujourd'hui. D'abord, trouver les partitions. Jouer la cinquième de Beethoven quand ils ont joué à la New York Philharmonic, c'était autour de 1850, c'était la deuxième fois qu'ils jouaient aux États-Unis. Mais trouver la partition. Avec un océan entre l'Europe et là-bas. Donc, au 19e siècle, il n'y avait pas Internet, donc il faut aller sur place pour avoir le contact direct. C'est la raison principale pour laquelle on envoyait les compositeurs en Europe. Et donc, voilà, Leipzig était probablement choisi à cause de toutes ces personnalités qui tournaient autour du conservatoire et avec lesquelles le jeune Strong a pu faire connaissance.
Alors, vous avez mentionné tout à l'heure, Christophe Pontillon, que le jeune Templeton Strong avait travaillé avec Karl Reinecke. Et c'est intéressant de savoir que Reinecke a composé une sonate Undine et pour flûte et piano.
Ah bon ?
Et que le premier poème symphonique de Templeton Strong s'appuie justement sur la nouvelle qui a inspiré la sonate de Reinecke, la nouvelle de La Motte Fouquet. Le lien est très...
C'était une pièce assez populaire au 19e siècle. Voilà. Je ne sais pas combien, mais disons, celle de Reinecke, c'est peut-être la plus connue aujourd'hui, comme pièce inspirée à cette histoire.
Alors, je propose donc qu'on écoute un extrait de ce poème symphonique qui est assez conséquent et qui a eu l'heure de plaire à Franz Liszt.
Thank you. Thank you.
On sort sur la pointe des pieds de cette Ondine, poème symphonique signé George Templeton Strong. Le chef Adriano dirige ici l'orchestre symphonique de Moscou. Après Leipzig, notre compositeur va s'installer à Wiesbaden en 1886, où là il va se lier d'amitié avec un condisciple américain, un certain Edward McDowell, qui fait aussi ses études en Allemagne. Et c'est un personnage qui est assez intéressant. J'aimerais bien qu'on s'y attarde un tout petit peu. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez envie de nous en dire deux mots, Christophe Contillon?
Je ne connais pas précisément sa biographie. Je le connais parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ma maman était pianiste américaine et elle parlait tout le temps de McDowell. Elle disait qu'il y avait un concerto de piano qu'elle avait joué, je crois. Oui, c'était un nom que je connaissais. Le concerto, je l'ai entendu aussi. Et je crois savoir que il a fait ses études en Allemagne, mais lui, il est retourné en Amérique, si je ne me trompe pas.
Oui, il me semble. Strong aussi, mais après, il est revenu.
Voilà. Tandis que McDowell est resté à Boston, je crois.
Alors, ce qui est intéressant pour ce concerto dont vous parlez, c'est justement un concerto que Edward McDowell a présenté à Franz Liszt et qui lui a montré, il l'a joué de Franz Liszt, et Franz Liszt l'a beaucoup apprécié et il l'a aidé à le produire et à l'éditer. Donc, c'était un peu le foyer où on allait chez Liszt à Weimar, en tant que jeune élève, pour soumettre ses œuvres. Et Liszt était quelqu'un qui aidait beaucoup les jeunes gens. Donc il a aidé Edward McDowell, il a aidé Templeton Strong, et grâce à eux, ils ont pu poursuivre leur carrière. Et c'est juste, effectivement, McDowell est parti aux États-Unis en emportant dans ses valises les partitions de son ami Templeton Strong, qu'il s'est mis à jouer de retour aux États-Unis pour essayer de faire connaître. Templeton Strong va retourner aux États-Unis, s'installera à Boston, où il aura un poste de compositeur pendant quelques années.
Conservatoire. Sauf erreur, oui. Mais après, bon, il va quitter pour venir en Suisse. C'est la période où il a ce débat intérieur entre se dédier entièrement à la musique ou à la peinture. Et pendant une bonne période, il arrête de composer. Il se dédie seulement à la peinture et après il reprend la composition. Mais ça, c'est plus tard, dès qu'il revient en Suisse. Mais c'est vrai que certaines œuvres, surtout les œuvres de jeunesse, de Strong ont été jouées en Amérique à son retour d'Allemagne. Et certaines, sauf erreur, même à New York.
Très intéressant. Alors, revenons à son séjour en Suisse, au moment où il décide de reprendre sa carrière de musicien et de compositeur. Il obtient un poste au conservatoire, et c'est là, Christophe Pontarion, que vous allez intervenir en tant que passeur de souvenirs. Est-ce que votre grand-père vous a raconté la façon dont Templeton Strong enseignait?
Malheureusement pas. Malheureusement pas. Il l'évoquait de temps en temps. Je sais qu'il était très traditionnel. Je sais que mon grand-père m'avait une fois dit qu'il avait une fois essayé de composer. Mon grand-père aussi était très traditionnel dans ses compositions. Je me souviens d'une petite anecdote qu'il m'avait dit une fois il a essayé de faire un peu plus moderne pour être un peu plus au goût du jour. Et que quand il avait montré ça à Strong, le Strong lui avait dit, tu sais, George, il faut pas faire ces choses-là. Donc il devait être plutôt traditionnel. Quelqu'un de très romantique, très attaché aux valeurs romantiques. Et très, très subtil, harmoniquement et tout, mais ça restait quand même complètement tonal. C'est pas du tout quelqu'un qui a intégré les nouveaux courants de musique atonale ou dodécaphonisme ou quoi que ce soit.
Non, donc, ça c'était.
Non. C'était... Mais c'était très, très élaboré dans le système tonal.
Au niveau harmonique, c'est toujours, élaboré. Compliqué, mais toujours avec ce goût de la couleur harmonique. Donc, il y a des enchaînements d'accords. C'est pas tout à fait ce qu'on pensait de voir ou d'entendre dans une phrase harmonique. Alors, souvent, c'est intéressant dans sa musique, la simplicité de la ligne mélodique et la complexité de l'accompagnement qu'il met.
Exactement. C'est ce qui m'est arrivé, justement, en travaillant les cinq pièces dans le style ancien. Quand je les travaillais seul à la maison, sans piano, je me disais, ouais, c'est joli, mais enfin, c'est un peu simple quand même. Et puis après, à la première répétition avec piano, je me suis dit, non, c'est pas si simple que ça. C'est ma partie qui est simple. Mais comme tu viens de dire.
Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le pianiste?
Qu'est-ce que fait le pianiste en plus? Ça rend la chose très, très, très colorée et très compliquée.
Et surtout pour les pièces d'orchestre, comme on a déjà pu entendre un peu, le goût de la couleur au niveau de la famille d'instruments et du mélange d'instruments. Il écrit pour grand orchestre, mais il y a toujours cette approche un peu à la Rimsky-Korsakov, disons, ce goût de chercher toujours une couleur nouvelle, quelque chose qui attire l'attention à travers le son. On peut dire que c'est du tardo-romantisme, d'accord, mais la façon dans laquelle il mélange et l'harmonie et ce goût de la couleur, c'est assez personnel,
ouais,
et original, moi je dirais. Et c'est là la nouveauté de Strong.
Les rêves de Cendrillon, c'est une pièce extraite d'un cahier d'esquisses de George Templeton Strong. Adriano dirige l'orchestre symphonique de Moscou. Adalberto Maria et Christophe Pontillon, est-ce que l'on connaît les sources d'inspiration de notre compositeur, les maîtres avec qui il aurait travaillé?
Je pense que Rimsky-Korsakov devait être assez important et je pense qu'il connaissait bien Wagner. En particulier dans la pièce pour trois violoncelles et contrebasses qui est sur le CD qui va sortir là bientôt, il y a des, je veux pas dire des allusions, mais enfin il y a des passages qui rappellent beaucoup certains opéras de Wagner. Donc je pense que en plus en ayant été dans les cercles de Liszt et compagnie,
allemand,
dans le cercle allemand, plutôt cette nouvelle école allemande, donc plutôt wagnérienne, je pense qu'il connaissait bien les opéras de Wagner.
Alors, le background allemand, c'est d'accord, mais à mon avis, cette musique, il y a un mélange aussi de son origine américaine et la famille était d'origine irlandaise.
C'est vrai.
Alors, souvent, on trouve cette histoire des fées, des sorcières, des danses qui sonnent pas du tout allemande en tout cas, et même pas européenne. Ça vient de Lille ou ça vient d'ailleurs. C'est ça qui m'a frappé aussi au tout début, en lisant la musique de Strong sans rien savoir. Après, je suis allé voir un peu sur son catalogue, les peu de documentation qui existe à la bibliothèque. On a un catalogue où il y a sa biographie et la liste des œuvres et quelques aquarelles. Mais je me suis fait une idée un peu de ce monsieur. Toi, tu as pu avoir des souvenirs des familles. Moi, le premier impact que j'ai eu avec sa musique, j'ai essayé un peu de me faire une idée de qu'est-ce qu'il pouvait être, ce monsieur, comme personne, à travers sa musique. Et quand j'ai retrouvé des documents, par exemple la photo, les témoignages de la famille, il y a un parallélisme entre sa façon d'écrire et de faire ce mélange avec toujours un peu de décalage. Il se détache un peu de ce qu'il fait, comme il était aussi avec ce sens of humor très british. On fait de belles choses, mais il faut pas trop le montrer. Il est conscient d'écrire dans un langage qui n'est plus à la mode, mais il n'est pas capable d'écrire comme on écrivait au début.